franceinter.com. La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Ce 6 avril 2011, demi-panthéonisation du grand poète Aimé Césaire. Je dis demi-panthéonisation parce que le corps manque. Aimé Césaire a refusé de devenir immortel à l'Académie française. Ce n'est pas pour reposer sous la voûte de la rue Soufflot, mais une plaque va être scellée dans les murs du Panthéon. L'invité de la marche de l'histoire aujourd'hui, un sociologue. Bonjour Michel Giraud.
Bonjour.
Bah oui, pourquoi pas un sociologue, hein. L'histoire est un archipel et un croisement perpétuel.
Tout à fait.
Et qui plus est, un sociologue antillais, Michel Giraud.
Oui, ça existe.
Oui, bien sûr. Poète et dramaturge, Aimé Césaire était député et maire de France à partir de 1945, et la population, c'était pas une atmosphère de panthéonisation. Au moment de sa mort, il y a 3 ans, était rassemblée dans les rues de la capitale de la Martinique. Michel Giraud, panthéonisation, ça ne peut pas vouloir dire fossilisation dans le cas d'Aimé Césaire.
Non, en aucune façon. Bon. Je crois qu'il n'y a pas matière à gloser longtemps sur cette demi-panthéonisation dont vous parliez. À la fois, c'est paraît quelque part tout à fait naturel que ça reconnu les mérites éminents d'un grand Français, parce que Français il l'était, même si bien sûr dans son cas c'était une France médiatisée par sa Martinique natale, son pays natal. Mais non plus, c'est pas l'occasion d'une énorme, enfin pour moi, réjouissance. Je crois que c'est Eusanne Palsy qui avait dit, la réalisatrice antillaise, auteure de La rue Casnègre, elle a dit que, lorsqu'on avait déjà discuté après le décès d'Aimé Césaire, de sa panthéonisation, que Aimé Césaire avait pour panthéon le peuple martiniquais. Et je pense que c'est ce que les leçons que vous avez fait passer dont témoignent. Il y avait une émotion absolument extraordinaire, quoi.
En témoigne encore celui-ci, qui date de bien avant, 1985, au micro de France Inter, Jacques Expert.
Césaire, pour nous, a été un père spirituel, mais aussi un père matériel. Parce que, bon, si le pain quotidien est entré dans certains foyers, c'est un peu grâce à Césaire. C'est un devoir pour nous de lui rester fidèle.
Vous en parlez presque comme d'un dieu.
Ah oui, c'est presque un dieu pour nous. Vous pouvez voir, c'est la seule photo que j'ai chez moi.
Vous avez ses œuvres complètes?
Oui, je les ai là, je vais vous les montrer.
Vous le lisez?
Oui, les enfants aussi. C'est un peu élevé pour nous, mais ce n'est pas le fait de le comprendre, c'est le fait de l'avoir et de savoir ce qu'il a dit. Tout ce que nous pouvons faire, c'est l'honorer et puis parler de lui, et expliquer surtout à nos enfants ce qu'il a fait pour nous.
Les œuvres complètes, on ne les avait pas nécessairement dans le lit pour la lecture, mais comme les livres de Victor Hugo sur une poutre dans les chambres des ouvriers du 19e siècle, là, à disposition à la maison, parce que l'action d'Aimé Césaire était incompréhensible sans sa pensée, et les Antillais le savent.
Oui, tout à fait. C'est très émouvant ce que dit cette dame, parce qu'on pourrait trouver ça un petit peu ridicule, comme on se moque des gens qui ont des livres dans leur bibliothèque qu'ils n'ont jamais lus, juste pour les montrer. Mais en vérité, vous avez fait le bon rapprochement, quoi. C'est le statut un peu... Césaire a le statut en Martinique que Victor Hugo a eu dans la France, c'est-à-dire celle d'un héros et qui est au-delà d'un poète, d'un grand écrivain, d'un dramaturge qui est un homme politique qui a une portée extraordinaire pour la Martinique, pour les Antilles plus largement, pour la France et même à la limite, on peut dire, à l'échelle planétaire. C'est un personnage, on ne peut pas ne pas être attaché à Césaire. Moi, chaque fois que je regarde une photo de Césaire, je suis frappé par le visage de l'homme, la pénétration de son regard et la bonté qui en... C'est un peu bébête de dire ça, mais vraiment avec un visage comme ça, on peut pas être mauvais.
En même temps, il ne provoquait pas nécessairement la familiarité. Alors on va essayer d'entrer un peu plus avant dans l'œuvre poétique et surtout politique de Césaire. L'expérience antillaise renvoie à une histoire noire pluriel, dans le cas de Césaire, c'est celle du village et des plantations de l'enfance.
Je me rendais bien compte de la terreur dans laquelle les villageois vivaient, de l'importance que ça avait d'être bien ou d'être mal avec le colon, parce que c'est de lui que dépendait la vie. Si on vous refusait du travail à ce qu'on appelait l'usine, qui était la distillerie ou la fabrique de sucre, eh bien, il est clair que c'était vraiment la ruine et la catastrophe. Le patron de l'usine, le grand Becquet, c'était un être presque mythique. Et c'était vraiment le seigneur.
Le bon plaisir, France Culture, 1993. Mmh. Vous définissez souvent, Michel Giraud, l'expérience antillaise comme une angoisse antillaise.
Mmh. Oui, enfin, c'est une angoisse d'une certaine façon. Mais c'est aussi, je dirais, mais ça va de pair avec la notion d'angoisse, c'est un formidable pied de nez au sort. Enfin, c'est un peuple qui a une histoire terrible, qui vient évidemment de l'esclavage. Je crois qu'on ne peut pas imaginer pire, à part l'extermination totale, et qui a su, dans un laps de temps très court, parvenir à une situation sociale et politique qui est pleine de problèmes, mais qui est évidemment personne ne peut le contester en avant par rapport à ce que les ancêtres esclaves ont connu. Donc, il y a à la fois cette mémoire qui travaille avec la douleur qu'elle comporte, mais il y a aussi associé toujours une sorte de fierté du chemin accompli. Et c'est ce qui fait que souvent les Antillais sont jugés un peu insupportables. Enfin, il y a souvent des stéréotypes, mais qui ne sont pas entièrement faux, sur une sorte d'arrogance ou de prétention antillaise, mais elle est liée à la fois à la grande souffrance qui a été connue dans le passé par les ancêtres de ces peuples et le chemin parcouru qui est tout à fait remarquable.
Enfin,
et
qui continue d'être
parcouru.
Plus arrogants encore, peut-être, sont les Haïtiens. Quand Aimé Césaire a fini ses études en France, il va enseigner à la Martinique. La Martinique est coupée à l'heure du monde. C'est l'occupation, le temps de l'amiral vichyste Robert. Et puis en 1944, il réussit à rejoindre Haïti. C'est une expérience forte pour lui que de découvrir ce pays. Il va en tirer un essai sur Toussaint Louverture. Et puis plus tardivement, une pièce sur le roi Christophe qui tenta d'établir une monarchie à Haïti après Toussaint Louverture.
Nous sommes maintenant dans le palais du roi Christophe. Vasté, baron secrétaire de Christophe, et Magny, général et duc de Plaisance, parlent au milieu de la foule des courtisans.
Ce roi noir, ce royaume noir, cette cour, parfaite réplique en noir de ce que la vieille Europe a fait de mieux en matière de cour.
Mon cher Vasté, je suis un vieux soldat. J'ai commandé sous Toussaint et Dessalines, et je vous dirai tout franc que je suis mal fait à ces manières courtisanesques dont vous avez l'air de faire vos délices.
Mon cher collègue Magny, vous le duc de Plaisance, tenir ce discours.
Avec nos titres ronflants, duc de la limonade, duc de la marmelade, comte de Troubonbon, nous avons bonne mine, vous pensez, les Français s'en tiennent les causes.
Homme de peu de foi. Allons, le rire des Français ne me gêne pas. Marmelade, pourquoi pas? Pourquoi pas limonade? Ce sont des noms à vous remplir la bouche, gastronomique à souhait. Après tout, les Français ont bien le duc de Foix et le duc de Bouillon. Est-ce plus ragoûtant?
La tragédie du roi Christophe dans l'excellente réalisation de l'excellent José Pivin, 1966 à Haïti. « J'ai vu ce qu'il ne fallait pas faire », dira Aimé Césaire, qui se souvenait en particulier de l'expérience de ce roi qui avait construit un palais et puis établi une cour qui singeait l'Europe.
Tout à fait. C'est d'ailleurs une des plus belles œuvres de Césaire, c'est que cette tragédie est plus symbolique de la reconnaissance pour moi, puisque la panthéonisation ou la semi-panthéonisation, il y a l'entrée de la pièce au répertoire de la Comédie française. Et je pense que c'est un texte que tous les Français peuvent lire, en plus qui est dans cette langue magnifique que vous avez, dont on a entendu des extraits.
À Haïti, j'ai vu des intellectuels flamboyants qui étaient en même temps des salopards, c'est-à-dire qu'ils laissaient à côté la misère du nègre avec sa bêche continuer et perdurer malgré leur discours dans la capitale.
Oui, mais pas tous, hein, quand même, il faut le dire. Il y en a même qui ont payé de leur vie leur engagement politique, quel que soit d'ailleurs le jugement qu'on pouvait porter politiquement sur cet engagement. Je pense à Jacques-Stéphane Alexis, par exemple. Bon, donc pas tous, mais en Haïti comme ailleurs, bon, on est confronté à ce que un intellectuel français, maintenant un peu oublié, appelait la trahison des clercs. Nous sommes pas, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Aujourd'hui, élection d'un nouveau président.
5 avril 2011.
Oui, aujourd'hui. aujourd'hui.
Le président, c'est un chanteur.
C'est un chanteur.
Il l'emporte sur son intellectuel, peut-être arrogant.
Sans dit long de la difficulté des rapports du peuple haïtien avec l'appareil les appareils politiques. Mais quelque part aussi, c'est très inquiétant quant à l'avenir, parce que ce pays a beaucoup souffert de l'absence de responsabilité et la démagogie de ses dirigeants. Et je pense que, malheureusement, il ne faut pas lui faire un procès d'intention. Avec Michel Martelly, on n'a pas de garantie qu'il en ira très différemment.
On retiendra d'un souverain précédent, le roi Christophe, à Haïti, que la négritude n'est pas biologique, qu'elle est culturelle et que dans son cas, elle est mêlée de beaucoup d'influences européennes. Je voulais terminer l'évocation de la longue réflexion sur le sujet d'Aimé Césaire par un extrait d'un extraordinaire discours qu'il fait en 1956. Il est toujours député et maire de Fort-de-France. Il est encore apparemment communiste et il parle devant des écrivains d'Haïti, des écrivains des Antilles, des écrivains noirs d'Amérique et puis des écrivains noirs d'Afrique. C'est cela qu'il a connu peut-être parmi les premiers, puisque un de ses amis d'avant-guerre était Léopold Sédar Senghor.
Partout où la colonisation s'est manifestée, des peuples entiers ont été vidés de leur culture, vidés de toute culture. Notre rôle n'est pas de bâtir a priori le plan de la future culture noire, de prédire quels éléments y seront intégrés, quels éléments en seront écartés. Notre rôle infiniment plus humble est d'annoncer l'avenue et de préparer l'avenue de celui qui détient la réponse, le peuple, nos peuples, libérés de leurs entraves, nos peuples et leur génie créateur, enfin débarrassés de ce qui le contrarie ou le stérilise. Nous sommes là pour dire et pour réclamer, donner la parole au peuple noir, laisser entrer les peuples noirs sur la grande scène de l'histoire.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Et Aimé Césaire s'exprimait en Sorbonne le 20 septembre 1956. Oui. Extraordinaire discours.
Extraordinaire discours. Il y a des tas d'éléments qui n'ont pas pu être reproduits dans l'extrait que vous nous avez fait entendre. Mais c'est un texte auquel il faut revenir sans cesse. Et en cette époque où on a tendance, comme on dit dans notre jargon en sciences sociales, à essentialiser les appartenances culturelles et encore pire, les appartenances ethniques, il y avait déjà un homme qui avait la conscience, comme vous l'avez rappelé, que la négritude n'était pas une affaire de biologie, peut-être même pas tout à fait de culture, mais c'était une affaire d'histoire. Et donc, il n'y avait pas du tout une crispation. La négritude, ce n'est pas du tout un négrisme. Et je crois que, de ce point de vue-là, Césaire, non seulement n'est pas dépassé, mais il continue à être auprès de certains esprits en avance. Dans cette période où nous voyons faire floresse l'expression d'association noire, etc. Comme si...
Nègre je suis, ça veut dire nègre je suis devenu, mais il dénonce quand même le chaos culturel, reprenons le mot du discours, oui, provoqué par la décolonisation qui décivilise le colonisateur, en même temps qu'elle conduit au plus grand désordre dans les esprits, le colonisé.
Oui. Mais là aussi, une pensée fine, une pensée dialectique, loin de certaines simplifications contemporaines, à la fois une dénonciation sans nuance du desservelage culturel que représente, parmi d'autres méfaits, l'entreprise coloniale, mais l'intelligence de comprendre que, ayant été complètement arraché à tout ce qui précédait, on pouvait trouver là des ressources. Et c'est la très belle expression de Césaire lorsqu'il parle des armes miraculeuse, c'est-à-dire les armes qu'on va puiser dans la culture et dans les éléments apportés par le colonisateur. Il n'y avait aucun dédain chez Césaire pour les grandes œuvres culturelles françaises, bien au contraire.
C'est l'Europe qui peut fournir des armes miraculeuses.
L'Europe est maintenant... dans ces échelles de mondialisation, bien d'autres continents, mais pour les étudiants d'avant-guerre, la 39, battant le pavé du quartier latin, donc les Césaires, les Senghor venant d'Afrique, de Guyane, c'était effectivement l'apport de l'Europe, la vision de l'ethnologie de l'Afrique que Césaire acquiert, c'est celle de l'allemand Léo Frobenius, qui n'est pas aujourd'hui considéré comme la plus grande référence scientifiquement parlant en matière d'ethnologie africaine. Donc il y a un va-et-vient, et c'est hautement symbolique que c'est à Paris et nulle part ailleurs que se sont rencontrés les Antillais, les Africains, les Guyanais, et que ça a donné ce formidable essor. Aujourd'hui, c'est devenu une chose banale, mais rencontrer pour un Antillais, rencontrer un Africain ou un Africain-Américain, c'était exceptionnel. Et ça...
C'est-à-dire que l'identité, ce n'est pas le musée tel que les anthropologues de l'époque voulaient le constituer autour de l'Afrique. L'identité, ça amène à un vœu d'universel. Et puis, il y a, reprenons le discours, la conclusion. C'est au peuple de faire le travail. D'inventer la nouvelle culture qui ne soit pas muséographique ni soumise.
Oui, et ça révèle quelque chose de très important chez Césaire, qui est que Césaire est un grand dirigeant, un leader, ça c'est une évidence, mais c'est un leader très particulier, c'est pas un leader qui impose. Et l'exemple, on y viendra peut-être ensuite, l'exemple le plus frappant, c'est quand en 1981, alors que tout s'y prêtait, qu'il aurait pu demander de secouer sérieusement le cocotier et d'envisager une ouverture politique très nouvelle pour les départements d'outre-mer, et en particulier sa Martinique, il a considéré que c'était pas encore mûr, les gens n'étaient pas encore prêts, il savait que c'était une question angoissante pour les peuples martiniques. Et il a lancé cette idée avec son esprit de normalien, il faut faire moratoire. Alors la plupart des gens qui l'entendent ne savaient même pas ce que c'était qu'un moratoire.
Un moratoire, on va pouvoir dire que c'est un paradoxe avec Césaire.
Et aujourd'hui, son successeur, Serge Letchimy, à la direction du Parti progressiste martiniquais que Césaire a fondé, est maintenant maire de Fort-de-France et député, donc vraiment le successeur de Césaire, recommence la même chose, puisque au moment des dernières consultations électorales, ils appelaient à refuser le passage à l'article 74 pour prendre temps de réfléchir.
Article 74, oui, c'est année 2000. Oui, revenons, voulez bien, Michel Giraud, à votre jeunesse, oui. C'est-à-dire au moment où vous imitiez peut-être Césaire débarquant à Paris, au lycée Voltaire. Vous connaissez Matébis, le groupe Malavoie. On va se remettre un peu dans l'ambiance.
Donnez-moi la foi sauvage du sorcier. Donnez à mes mains puissance de modeler. Donnez à mon âme la trempe de l'épée et de moi-même mon cœur. Ne faites ni un père, ni un frère, ni un fils, mais le père, mais le fils, mais le frère, ni un mari, mais l'amant de cet unique peuple. Et ce faisant, ne faites point de moi cet homme de haine pour qui je n'ai que haine, car pour me cantonner en cette unique race, vous savez pourtant mon amour tyrannique. Vous savez que ce n'est point par haine des autres races que je m'exige pécheur de cette unique race, que ce que je veux, c'est pour la faim universelle, ce que je veux, c'est pour la soif universelle.
Oui, si vous le voulez bien, revenons en 1956, on en était en 1956. Vous étiez né ?
Oui, j'avais 10 ans.
Juste après le congrès, devant les écrivains et artistes noirs, il démissionne du PC, avec beaucoup d'habileté d'ailleurs, faisant semblant d'être toujours ami avec Maurice Thorez, le secrétaire général, et puis partant très vite, et profitant du fait que le PC ne critiquait pas assez le stalinisme, et que le PC français avait approuvé l'intervention armée en Hongrie.
À Budapest, oui.
Oui, malin, hein.
Oui, c'est
pragmatique
mais,
et malin.
Oui, malin, mais malin parce que sur des convictions extrêmement profondes, ça, on ne comprend rien à Césaire parce qu'il l'a souvent répété. Il est indigné par toute forme d'injustice à qui en est la victime. Et ça, c'est on est très très loin d'une pensée de l'enfermement dans le particulier, dans le communautaire. Césaire, et c'est ça qui gênait longtemps et qui lui donne aujourd'hui son second rayonnement, c'est une pensée de l'universel, mais d'un universel intelligent, celui qui part et qui s'enracine dans une culture particulière.
Oui, on peut avoir de grandes pensées et puis garder la petite idée qui permet de conserver son pouvoir en Martinique. Alors, il échappe ainsi au désaveu du PC par la vague gaulliste en 1958, et puis il a fondé son propre parti, le Parti 57. Politique martiniquais, élection novembre 58.
Fort-de-France, RTF. À l'heure où nous émettons, les bureaux de vote ont commencé les opérations de dépouillement depuis 2 heures seulement. Deux principes généraux se dégagent déjà de ces élections dans le département de la Martinique. Tout d'abord, la disparition à peu près complète du Parti communiste au profit du Parti progressiste martiniquais, dirigé par M. Aimé Césaire, député et maire de Fort-de-France, lui-même ancien leader du Parti communiste. Enfin, le nombre élevé des abstentions, qui sera probablement de l'ordre de 40 à 50%.
Voilà, il est remis en selle. Oui. Il est là, souvenons-nous, depuis 45. Alors vous êtes jeune.
Oui.
Césaire, vieux, disait, si j'étais jeune, je croiserais Césaire dans la rue, je l'engueulerais.
Mm-hmm. Oui.
Je
ne
sais pas si vous étiez si admiratif dans votre jeunesse de papa aimé. Qu'est-ce que vous lui reprochez?
C'est peut-être le moment de l'autocritique. Moi, j'ai 65 ans, donc le temps est venu. Il y a deux points essentiels que j'avais certainement trop mal perçus parce que j'avais aussi très peu travaillé. En 56, puisque vous faisiez référence à cette date, j'avais 10 ans, je ne connaissais pas Césaire. Soyons sérieux, quoi. Mais ensuite, bon, au moment des études, évidemment, j'avais une plus grande connaissance, mais encore insuffisante. Et moi, je fais ma thèse sur la question de couleur, sur les problèmes du racisme en Martinique, et j'étais très évidemment constitué contre les illusions de la couleur, comme je pouvais les appeler, et donc je voyais, j'avais trop tendance à tirer la pensée de la négritude vers une forme de négrisme, ce que j'ai aujourd'hui appris qui était une grosse erreur de ma part. Et puis il y a un deuxième point très précis, et là j'étais pas tout seul à être dans cette logique-là, nous étions plutôt des gens d'extrême gauche, disons, comme presque, j'allais dire, il se doit à cet âge-là. Et bon, on avait un reproche fondamental à Césaire, c'est de ne pas avoir conduit la Martinique et plus largement les autres anciennes colonies devenues départements d'outre-mer à l'indépendance. On le prenait pour une sorte de traite. Il y a encore des gens qui, jusqu'à la veille de sa mort, ils se sont un peu abstenus de parler au moment des obsèques, mais enfin, qui avaient la dent dure à ce sujet.
Parce qu'en 1946, là aussi, c'est une grande... en 1946, c'est moi qui reviens en arrière, il avait été le rapporteur à l'Assemblée nationale. Du projet sur la départementalisation qui transformait les ex-colonies de la région en autant de départements, et il luttait pour que des décrets d'application sortent, et il jouait la départementalisation avec l'autonomie dans la tête, et il jouait l'autonomie pour obtenir toute la départementalisation, le subtil paradoxe d'Aimé Césaire. Avec le général de Gaulle et encore plus avec André Malraux, il ne se tendait pas si mal, comme en témoigne le récit, alors vous aviez 16 ans peut-être, le 23 mars 1964 de la visite du chef de l'État à Fort-de-France.
Problème d'une île étroite, pauvre et terriblement surpeuplée. Problème du sous-développement d'un pays terriblement arriéré du point de vue économique. Problème de notre prolétariat voué au chômage qui ne voit dans l'immigration qu'un palliatif inhumain.
Monsieur Aimé Césaire observe alors que de la solution de tous les problèmes passés, la France n'a jamais été absente.
La solution de ces problèmes a toujours été trouvée dans le cadre de la France et par la volonté de la France.
Ce discours appelait une réponse. La voici.
À cet égard, la France a fait et continue de faire son devoir. Elle le fait vis-à-vis de ses enfants. Elle le fait ici, avec vous, et vous avec elle.
Ici Robert West, qui vous a parlé de Fort-de-France.
1964, le général de Gaulle savait jouer du paradoxe aussi. Je ne sais pas comment il entend le mot enfant. On ne sait pas comment Césaire entend le mot départementalisation. C'est étonnant quand on entend ceci. Alors, ensuite, il y a eu les années Giscard, difficiles pour Césaire. Ensuite, il y a eu l'entente avec Mitterrand, la période du moratoire. Tous les problèmes des Antilles que le journaliste ne veut pas voir défiler, il interrompt. Ce sont ceux des Antilles qui ont éclaté au moment de
2009.
Des émeutes de 2009.
Il y a une très grande, évidemment, continuité parce que les problèmes continuent de se poser. Parce que, et là encore, Césaire est indispensable, est une boussole, parce qu'on a posés comme nécessairement contradictoires, exclusifs l'un de l'autre, l'exigence de la République et que ses promesses soient tenues, la citoyenneté entière, français entièrement, entièrement français et pas français entièrement à part, et d'un autre côté, le respect de la particularité de l'histoire très, très, très spécifique de ces pays. Ces deux choses n'ont pas cessé d'être opposées, alors qu'il faut à l'évidence les penser ensemble. Et c'est exactement ce qui s'est passé, ce qui s'est dit d'une certaine façon dans le mouvement de 2009. C'est pour ça que, préparant un court dossier avec un collègue pour la revue Esprit que vous connaissez bien, j'avais intitulé l'édito de ce dossier « Le poète est dans la rue ». Il était déjà mort parce que c'est effectivement le message césarien. Et ce qui est frappant, c'est que la même difficulté à comprendre cette dialectique et de ne pas choisir la République contre la dignité ou la dignité contre la République, on la retrouve encore chez des intellectuels éminents. J'ai un homme pour qui j'ai une grande affection, qui était Édouard Glissant. Édouard n'avait pas exactement bien perçu ça, ou il ne voulait pas le percevoir. Enfin, il y avait notamment une distinction nette entre lui et Césaire sur ce plan-là. Césaire, c'est notre passé, d'une certaine façon maintenant, c'est notre présent à coup sûr, et je pense que ça restera pendant un certain temps dans notre avenir. C'est
Esprit, pas Dieu, août 2009, et puis vous participez à un grand numéro des temps modernes, janvier-avril 2011, toutes les références sur notre site, oui. Où vous dites que les dirigeants antillais, ils seraient presque prêts de reprocher à leur peuple pas assez d'indépendantisme ou pas assez d'indigénisme.
Bien sûr, ils sont pas presque prêts, ils sont tout à fait dans cette position-là. Je ne sais pas si ça nous fait un peu sortir du cadre d'une émission consacrée à Césaire, mais le manifeste qu'on peut encore trouver, qui s'appelle le manifeste des produits de haute nécessité, signé par 7 d'entre eux, et non des moindres, Édouard Glissant, Patrick Chamoiseau, c'est en fait ce qu'il dit. Il lui dit: vous vous intéressez qu'aux questions matérielles, vous ne pensez qu'à votre ventre, il faut peut-être penser à la dignité, à l'identité de notre pays. Ils n'ont toujours pas compris le message qui monte des rues, mais vous savez, je pense qu'il continuera à être donné, ce message.
Parce que Césaire, il se disait indépendantiste, mais il savait être matérialiste, c'est-à-dire reconnaître
c'est ça, la politique.
La nécessité d'avancer sociale aux Antilles. La politique, c'est deux choses.
Il faut avoir des objectifs et il faut avoir le sens des moyens et de la patience pour y parvenir. Nous sommes maintenant dans une situation où nous n'avons plus d'objectifs et nous n'avons plus non plus de patience. C'est pour ça que ça va si mal.
Merci Michel Giraud.
Petit cheval, hors du temps, enfuis bravant le lait du vent, la vague et le sable turbulent. Petit cheval, dos cambré que salpêtre le vent, tête basse faire le cri des juments. Petit cheval,
Raphaël Eva qui chante Césaire, parce qu'il y a aussi une érotique, on n'a pas eu le temps d'en parler, Jacques Sigal, notre réalisateur, l'aurait souhaité, d'aimer Césaire dans l'équipe de la Marche de l'Histoire, Frédéric Martin, Franck Olivard, Camille Poux, Jalaguier, à la technique aujourd'hui, Rémi Quincé et Pierrick Monsigny. Sur notre site, la possibilité de vous réabonner à la Marche de l'Histoire et puis toute documentation, notamment les textes de Michel Giraud.